Donc, le passage biblique de ce matin, tiré des psaumes 42 et 43, nouvelle édition, Genève. Donc, psaumes 42 et 43, nouvelle édition, Genève. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu? » Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais, entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Métir. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu.
Merci Luc. Dans la vie, il y a des moments de joie incroyables. C'est l'été, on parle des dîners, des barbecues, on parle des temps autour d'une piscine à relaxer, une soirée, un souper entre amis, ou il y en a qui célèbrent des mariages de ce temps-ci. Il y a des moments d'exaltation, de joie incroyable, des petits-enfants qui viennent au monde prendre un enfant dans ses bras. Puis à l'opposé, il y a des moments d'épreuve, des moments difficiles. Des moments de lourdes peines qui sont durs à traverser puis qui sont décourageantes, où on est tenté de s'écraser, de s'effondrer. Et une des beautés de la vie chrétienne, c'est que on peut vivre tout ça devant Dieu. Tous ces moments-là, on peut les vivre avec Dieu. On vit devant notre Dieu les moments de joie incroyables. Dans la prière, dans la louange, lorsqu'on s'assemble, lorsqu'on partage, on rend grâce à Dieu pour ses bénédictions incroyables. Mais on a aussi cette liberté d'aller vers Dieu quand on souffre, quand c'est difficile, quand c'est lourd. Et la beauté du livre des psaumes, c'est que ce livre-là nous apprend que la prière est un moyen de grâce. La prière est un endroit où on s'approche de Dieu quand on souffre, quand ça va mal et quand on est dans la joie. Et c'est une des choses qu'on veut développer ensemble. On veut apprendre ensemble à venir devant Dieu dans les moments de découragement comme dans les moments de joie. Voici comment je résumerais l'exposé biblique de ce matin. La prière est cet endroit où je peux entendre mon cœur. D'accord, je m'en vais dans la présence de Dieu, mais je vais entendre à cet endroit-là mon cœur, mes états d'âme, et je vais pouvoir me tourner vers Dieu pour placer mes espoirs en lui. Je répète ça. La prière est cet endroit où je peux entendre mon cœur, mes états d'âme. On est mis à nu devant Dieu. Il n'y a plus de prétention, il n'y a plus d'image. Et où je peux me tourner vers Dieu pour placer mes espoirs en lui. Et dans le passage de ce matin, on va voir quelqu'un qui est dans un état de découragement énorme, profond, assez désespéré. Ensuite de ça, on va voir quelles sont les causes de cet état-là. Qu'est-ce qui l'amène là? Il y a des surprises pour nous dans le passage parce qu'on a des réflexes comme chrétiens. On est des gens religieux, dans le bon et le mauvais sens du terme, et on a des réflexes comme chrétiens lorsque le découragement vient sur nous, à chercher des causes. Quelles sont les causes ici de cet état de découragement pour dans ce psaume-là? Et ensuite de ça, on va terminer avec une prescription, un remède de la part de Dieu, de la part du psalmiste lorsqu'on traverse ces moments de découragement. Un état de profond découragement. On serait tenté de croire, je pense dans la culture populaire, que quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui trouve la ressource dans sa spiritualité pour être toujours dans la joie. Je pense que c'est l'image qui est donnée en général de la spiritualité. C'est quelque chose de léger. C'est quelque chose où c'est comme ça qu'on s'évade. C'est comme ça qu'on connecte avec le transcendant. C'est comme ça qu'on déconnecte un peu du réel puis des épreuves du quotidien. Mais la vérité, si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous savez très bien qu'être chrétien, ça ne veut pas dire que c'est hop la vie puis hop la joie tout le temps. Au contraire, il y a des moments difficiles, il y a des moments lourds, il y a des épreuves qui sont lourdes. Et dans ce psaume, le psalmiste dit « Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? » Il est là dans ses pensées puis il entend ce qui se passe à l'intérieur de lui puis il est lui-même témoin. C'est pas seulement ses amis qui disent « Hey, ça va pas! » Non, il est lui-même témoin de ce qui se passe à l'intérieur de lui, puis il dit, comment ça se fait que c'est si lourd que ça à l'intérieur de moi? Comment ça se fait que je suis aussi découragé que ça? Au verset 7, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mithéar. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Puis cette phrase-là revient à quelques reprises hein, dans les deux psaumes. Le terme hébreu qui est là, c'est un terme qui parle de quelqu'un qui est anéanti. En français, on dirait qu'il est complètement détruit, il est complètement démoli. Et donc, il constate qu'en lui-même, son âme est sans ressources. Vous avez déjà vécu des moments comme ceux-là? Où t'es complètement désespéré. Des fois, c'est comme une vague qui nous submerge complètement. C'est ça qu'il parle. Hein? Il parle des flots, puis il est conscient que les épreuves de sa vie, Dieu les permet. Il dit, tes flots m'envahissent un peu plus loin dans le psaume. Mais il y a des moments où le découragement nous submerge. Vous avez déjà vécu ça? Des fois, ça va durer une heure. Des fois, ça va durer une journée. Des fois, ça va durer une semaine. Parfois, un mois. Parfois, des mois. On se sent complètement écrasé par le découragement, envahi par le découragement, dysfonctionnel, je dirais. Dysfonctionnel. Il y a des moments où Dieu n'est plus réel à notre foi. Vous savez, croire en Dieu, être chrétien, c'est apprendre à vivre avec l'invisible. Hein? C'est le fondement de la foi. Je crois dans un Dieu qui n'est pas visible. Mais il y a des moments où même si j'ai la foi, l'invisible devient complètement irréel pour moi. Puis là, j'ai l'impression que ce Dieu-là en qui j'ai toujours cru n'est plus là pour moi. Ça devient irréel. J'arrive plus à trouver cette ressource-là en Dieu. Il dit au verset 3, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Mais ce psalmiste-là n'a jamais vu Dieu. Mais il fut un temps où il était dans la présence de Dieu, puis il avait cette conscience profonde dans son être intérieur que Dieu existe, qu'il est vivant, qu'il est là. Et si vous êtes chrétien, vous avez vécu ça. Vous avez vécu des moments où c'est comme si Dieu devenait tangible à votre foi. Dieu est réel, tu pourrais quasiment le toucher. Il est là, tu crois en lui, tu espères en lui, tu as confiance en lui, tu le vois agir dans ta vie, tu l'entends parler à travers sa parole, tu le vois placer des choses, répondre à des prières. Puis il y a de ces moments où Dieu devient comme complètement irréel. Puis là, tu peux être assailli par le doute puis te dire, « Oui, mais est-ce que j'ai cru? Est-ce que c'était une folie? Est-ce que ça peut arriver pour un chrétien de douter de l'existence de Dieu? » Si la réponse, c'est non, je ne suis pas chrétien. Si la réponse, c'est non, moi, je ne suis pas chrétien. Parce qu'il m'arrive des fois de dire, « Seigneur, es-tu là? Es-tu là? » Et moi, c'est ça que j'entends ici. Dieu est rendu irréel à sa foi, à travers sa souffrance. À travers sa souffrance, Dieu semble irréel. Il dit, puis écoutez, il commence à dire des choses qui, selon moi, il ne croit pas vraiment. Il dit au verset 10, « Je dis à Dieu mon rocher, donc d'une part, mon fondement, mon roc, inébranlable, mon Dieu, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? » Est-ce que vraiment il croit que Dieu est amnésique? Que son rocher n'est plus là? Je ne pense pas qu'il le croit, mais c'est au moins ce qu'il expérimente au plus profond de lui-même. C'est ce qu'il ressent. Il dit au verset 2, « Toi, mon Dieu, mon protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? » Dieu semble tellement loin à ce moment-là, dans son expérience, que le jour où Dieu était réel, tangible pour lui, accessible à sa foi, ce sont des jours du passé. Puis il y a un conflit intérieur, parce qu'il croit toujours en Dieu, il est en train de se parler à lui-même, on va le voir un peu plus loin, mais s'il veut être honnête avec lui-même, et des fois, si on veut être honnête avec nous-mêmes, si on arrête de jouer aux chrétiens que tu croises le dimanche matin, puis « Salut, ça va? » »« Ah ouais, ça va. » Come on. Ça va pas pantoute ce matin. Mais là, lui est honnête avec lui-même. Là. Il n'y a pas de comédie, il n'y a rien. Non, ça va vraiment pas. Parce que je sais que Dieu existe, mais je pense qu'il m'a oublié. Ah, c'est vraiment ça que tu crois dans ta théologie? Je sais pas, mais c'est ça que je ressens. À ce moment-ci, c'est ça que je ressens. Et dans les Écritures, c'est une des belles choses avec la parole de Dieu, c'est que les Écritures sont honnêtes. Puis dans les Écritures, on voit que ça va arriver au plus fort d'entre nous. Je vais vous donner quelques exemples rapidement. Des gens qui vivent de profonds découragements, qui sont des modèles de foi en général, mais qui vivent de profonds découragements, au point même de souhaiter mourir, de prier pour mourir. Ça ne peut pas devenir beaucoup plus extrême que ça. Jonas, dans Jonas 4, bon, Jonas, c'est peut-être pas votre modèle de foi, là, mais c'est quand même, tu sais, un prophète de Dieu, fait qu'on va quand même le nommer. Dans Jonas 4, Jonas va faire cette prière. « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » C'est une prière qu'il fait à Dieu. Avez-vous déjà fait une prière comme ça? Élie, tout un homme de foi. Tout un prophète, tout un homme de foi. Élie, dans 1 Roi 19:4, après qu'il ait vaincu les faux prophètes, après qu'il ait vaincu Jézabel, fatigué, découragé, dans 1 Roi 19:4, pour lui, il alla dans le désert, et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez! » Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il prie pour mourir. Élie prie pour mourir. Moïse, dans Nombre 11, on lit au verset 11, Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Au verset 5, « Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Dans un moment de désespoir, Moïse, cet homme fort de Dieu, dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tue-moi! » Est-ce que vous avez déjà prié ça? Moi, j'ai déjà prié ça. Quelques fois dans ma vie chrétienne, dans un moment de désespoir, dire, « Seigneur, je suis sauvé, je suis chrétien. Viens me chercher maintenant. Je veux mourir maintenant. Accorde-moi cette grâce-là de mourir maintenant. » Dans un moment de découragement. Dans un moment de découragement. Ça a l'air que ça peut arriver à des hommes de foi. des hommes solides, des hommes forts, des héros de la foi. Puis remarquez que jamais dans ça, ils envisagent de s'enlever eux-mêmes la vie. Ils sont conscients que c'est Dieu qui est le maître de leur vie, puis c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'on part, mais le découragement est tellement lourd que c'est leur prière, « Seigneur, viens m'enlever la vie. » Je pense qu'un médecin pourrait lire le psaume 42-43, puis dire « Je pense que cet individu-là est en dépression. » Perd le sommeil, il n'a plus le goût de manger. Quelles sont les causes de ça? Qu'est-ce qui peut amener une telle condition dans nos vies? Il y a toutes sortes de causes, puis on va en voir quelques-unes dans ce psaume-là. La première, je la résumerai comme ça, la fatigue puis la faiblesse humaine. Simplement notre état d'être humain. Puis je prends le temps de la présenter comme ça parce que c'est pas nécessairement le péché qui amène ça. Et c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure lorsque je disais, vous savez, on est religieux dans le bon sens, dans le mauvais sens du terme, puis je pense que souvent, lorsqu'on est découragé, notre premier réflexe, c'est de dire, OK, il y a un péché, c'est sûr, il y a un péché. Et peut-être qu'il y en a un. Je peux commettre des péchés qui m'amènent à me retrouver dans des situations où je suis complètement découragé parce que je vois les conséquences poindre à l'horizon, puis je dis, aïe, aïe. Donc, c'est possible. Je peux être dans le découragement parce que je suis pris dans mon péché et j'arrive pas à sortir de là. Mais dans les circonstances qui nous concernent, il y a pas de question de péché. C'est pas une situation de péché. Pour autant que je puisse dire, cet homme-là est en train de faire la volonté de Dieu, bullseye, en plein centre de la volonté de Dieu. Mais les épreuves sont difficiles. Et donc, la première cause à ce profond découragement, je le définirais tout simplement comme de la fatigue puis de la faiblesse humaine. C'est notre condition humaine. Regardez le verset 4. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Cette personne-là ne dort plus et n'a plus d'appétit. » Je pense qu'un médecin dirait peut-être dépression. Au moins une dépression spirituelle. Si vous connaissez le grand prédicateur anglais, Dr. Martin Lloyd-Jones, il porte pas son nom de docteur comme docteur Marquis, mais parce qu'il était médecin avant d'être pasteur. Puis en fait, c'est un autodidacte qui a étudié par lui-même la parole. Mais Lloyd-Jones était donc un grand médecin en Angleterre avant de devenir pasteur. Puis lorsqu'il prêche sur ce psaume-là, il dit c'est une condition de dépression qu'on a ici. Et ce qui est intéressant, hein, c'est qu'il dit, ben c'est ça. C'est souvent ça, les dépressions. Il y a de multiples causes à la dépression. La semaine dernière, je l'ai dit, je ne commencerai pas à me prononcer sur les pilules. Je vais vous relancer la réplique de Jésus. Rendez au médecin ce qui est au médecin et à Dieu ce qui est à Dieu. Fait que si vous pensez que vous devez aller voir un médecin, allez voir un médecin. Mais comprenez que souvent les causes sont multiples. Et c'est très rare qu'il n'y ait pas un élément spirituel à tout ça. D'accord? Et donc, cette personne-là est simplement faible à quelque part, puis en perd ses nuits de sommeil, en perd son appétit, puis il y a une espèce de cycle qui est en train de s'installer à ce moment-là. C'est vraiment intéressant dans 1 Roi 19, j'ai fait allusion à Élie lorsqu'il fait cette prière, mais il y a des circonstances quand Élie fait cette prière-là. Il vient de combattre contre les faux prophètes. Et puis, il a vu des victoires absolument extraordinaires. Dieu a béni à travers sa foi des choses incroyables qui ont dû être très éprouvantes physiquement. Et tout ça se termine avec Jézabel qui vient, la méchante reine à ce moment-là, qui le menace, qui dit « Tu vivras pas, tu ne verras pas demain matin, je te l'assure. » Et donc, il doit prendre la fuite devant Jézabel. Il y a certainement une armée qui court après lui. Et il se rend dans une ville, puis ensuite de ça, il se rend au désert. Et après une journée de marche, Élie est certainement épuisé. Et c'est à ce moment-là qu'il fait cette prière-là. Lui qui était un homme de foi, mais il y a des circonstances, c'est un être humain, il demeure simplement un être humain. C'est une des causes, je crois, de ces moments de découragement qui ne sont pas toujours dus à des péchés dans nos vies, mais simplement à notre condition humaine. Ça fait partie de la vie humaine. Ça fait partie de l'expérience humaine, d'être envahi par des vagues de découragement dues à des épreuves, des circonstances ou de la fatigue. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? D'autres causes, deux autres causes rapidement. C'est intéressant au verset 5, il dit « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Et donc, les circonstances de ce psaume-là font que l'auteur est loin du peuple de Dieu. Possiblement au front, comme je disais, dans le nord du pays, puis il n'est pas dans ces moments de rassemblement en église. Et il arrive des circonstances dans notre vie qui vont faire que je déménage à cause du travail, des choses comme ça, puis je n'ai pas la liberté de me rassembler avec le peuple de Dieu et prendre soin de mon âme. Ce moment où, ensemble, le dimanche matin, on vient rencontrer Dieu. Puis je suis éloigné de mon église où je suis en déménagement, puis je me cherche une autre assemblée. Il y a quelque chose là à ne pas négliger, qui peuvent devenir très, très lourdes pour notre foi si on n'a pas cette opportunité de se rassembler avec le peuple de Dieu. On chante des chants, mais ce n'est pas parce qu'on aime la musique. On chante des chants parce qu'on déclare notre foi, parce qu'on veut dire combien Dieu est grand, combien est merveilleux. Et cet homme-là est loin du peuple de Dieu et de ces rassemblements où le peuple de Dieu est en train de célébrer Dieu. Et ça devient lourd sur sa foi. Une autre cause possible. Et il y a toute l'opposition de la culture environnante. Il dit à quelques reprises, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Au verset 4, « Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? » Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu? » Alors, c'est pas simplement que ses adversaires s'en prennent à lui, c'est qu'ils s'en prennent à sa foi. Voyez-vous? C'est pas simplement qu'ils disent, « Tu réussis pas. » C'est qu'il le méprise pour sa foi en Dieu. Et on vit dans une culture qui voit comme une faiblesse, souvent, la foi en Dieu. Et donc, la culture est souvent opposée à notre foi. Et je vais peut-être avoir des amis qui vont me dire, « Ouais, mais ça te donne quoi ta foi? Regarde où est-ce que t'es. » Et ça peut encore être une source de découragement, d'abattement pour nos âmes. Notre condition humaine, simplement les épreuves de la vie, le fait d'être éloigné du peuple de Dieu puis de ne pas pouvoir célébrer avec le peuple de Dieu. L'opposition de la culture environnante où on est des étrangers souvent puis on doit se battre pour notre foi peuvent toutes être des causes de ce profond découragement qui amène même des hommes de Dieu à dire « Seigneur, viens me chercher, je ne suis plus capable. C'est assez pour moi, j'ai fini. » Ou être profondément abattu. Quelle prescription est-ce qu'on trouve? Comment est-ce qu'on peut apprendre à dealer avec ces moments de découragement-là à travers la prière? On est dans un psaume, on est dans une prière. Cette prière-là a été écrite par un individu pour le peuple de Dieu. Les circonstances sont vagues pour qu'on puisse aller puiser dedans pour notre foi à nous. Quelle est la prescription du psalmiste ici? Pour édifier notre foi dans la prière. Quelques éléments. Sois honnête avec toi-même, je l'ai déjà dit souvent. C'est une des plus précieuses leçons à apprendre sur la prière, dans les psaumes, c'est à être honnête avec nous-mêmes. Cet individu-là dit au verset 6, « Pourquoi t'abats-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » En d'autres mots, entends ce qui se passe en toi. Ça a été une des leçons que j'ai dû apprendre dans la vie. Je suis un gars très, très, très rationnel. On est tous différents, puis ce que je veux dire là s'applique aussi aux gens qui sont très émotifs, d'accord? C'est juste que ça prend une autre couleur. Moi, personnellement, souvent, j'entendais pas du tout mes émotions. Je suis un gars rationnel, je rationalise toutes les circonstances. Puis là, à un moment donné, il y a comme quelque chose qui se passe, puis je deviens un peu dysfonctionnel. C'est comme si j'ai des réactions qui, rationnellement, sont pas raisonnables. Et j'ai dû apprendre à travers la vie à écouter c'est quoi qui se passe, c'est quoi que je suis en train de taire à l'intérieur de moi. Peut-être les émotifs, c'est que c'est tout le temps ça, il y a tellement d'émotions que tu n'entends plus ce qui se passe vraiment, je sais pas. Vous demanderez un émotif, je ne les comprends pas très bien. Mais voyez-vous le psalmiste, ce qu'il fait? Il entend, il s'observe, il se regarde aller, il entend ce qui est en train de se passer à l'intérieur de lui. Comment est-ce que je peux apporter le remède de la parole de Dieu si je ne vois pas ce qui est en train de se passer? Et donc, les psaumes nous enseignent que lorsqu'on va dans la prière, c'est un endroit où on va pour être mis à nu devant Dieu. Quand je vais dans la prière, je vais là pour parler à Dieu. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la prière. C'est comme s'il n'y a plus de game, il n'y a plus de prétention, il y a plus de prétention. Je suis là avec le silence et mon Dieu, c'est tout. Fait que qu'est-ce que je vais entendre? Je vais entendre l'Esprit qui me pousse à adorer Dieu ou je vais entendre toutes sortes de pensées charnelles en moi? J'ai besoin de les entendre. J'ai besoin de savoir ce qui se passe en moi pour pouvoir voir, hey, je suis dans l'abattement. Arrête de faire semblant que tout va bien, ça va pas bien. Arrête de faire comme si tout était cool. Prends un temps avec Dieu. Va dans la prière, il y a quelque chose qui se passe. Tu le vois, t'es irritable, t'es plate, t'es pas le fun. Qu'est-ce qui se passe? Prends un temps avec Dieu. Va dans la prière. Va entendre ce qui se passe. Reste en silence devant Dieu. Et donc, il est honnête avec lui-même, il va s'écouter. Sois sage. C'est ça que ça peut te conduire à faire. C'est vraiment intéressant. Vous prendrez le temps d'aller lire 1 Roi 19. C'est quoi le traitement que Dieu fait pour Élie? Lorsque Élie gémit devant Dieu, puis qu'il dit « Enlève-moi la vie, je veux mourir. » Puis il est épuisé, fait qu'il s'endort. Après sa prière, il s'endort. Et lorsqu'il se réveille, un ange vient le réveiller. L'ange a préparé un repas pour lui, puis il dit « Tiens, viens manger. » C'est fou, hein? C'est pas comme whiteboard, on a sorti la craie, on va t'expliquer, il y a quelque chose que t'as pas compris. T'as vu la foi, t'as vu la puissance de Dieu, t'as vu que Dieu peut battre des prophètes. Pourquoi t'es en train de gémir? C'est quoi cette incrédulité-là? C'est pas ça qui se passe. Élie est épuisé. Dieu lui dit, tiens, je t'ai préparé des petits gâteaux, viens manger, va faire dodo. Puis après ça, il se réveille, viens manger encore, parce que là on a une longue marche, va faire dodo. Sois sage. Fait que peut-être que c'est juste ça que tu es en train de vivre. Tu as perdu tes repères, tu as perdu ton temps avec Dieu, tu as perdu juste une hygiène de vie qui a de l'allure parce que tu es là, puis toi tu veux servir le Seigneur, puis tu es quelqu'un de responsable, puis tu es en train d'avancer, puis là à un moment donné, ça se met à déconner dans ta tête. Mais écoute, sois sage, va dans la prière, considère, peut-être que tu as juste besoin de manger, de te reposer, puis de prendre du temps avec Dieu. Mais prie aussi. Donc, entends ce qui se passe en toi et prie surtout quand tu n'as pas envie de prier. C'est un peu ça hein, qu'on entend à travers ce psaume-là. Il se parle à lui-même. Pourquoi tu es découragé? Confie-toi en Dieu. Prie surtout quand tu n'as pas envie de prier. Continue à prier lorsque tu n'es pas là dans ton cœur. Regardez ce qu'il dit au verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Il se projette dans l'avenir et il dit « Moi, je vais continuer à marcher avec Dieu. » Fait qu'on restera pas là, ça va passer cette affaire-là. Moi, je vais continuer. Il se parle à lui-même, là. Il est pas en train de faire un sermon à quelqu'un d'autre. Il est en train de se parler à lui-même. Au verset 12, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et si vous n'avez pas appris à prier, quand vous n'avez pas envie de prier, j'ai bien aimé cette illustration de Tim Keller. Il y a des gens qui, vous savez, on se fait des catégories, puis là, toi, tu dis, « Moi, je suis pas quelqu'un de prière, puis cette personne-là, c'est quelqu'un de prière. » Puis souvent, ça veut dire, « Cette personne-là est flyée. » Fait qu'il y a toutes sortes de connotations dans ça. Mais si t'es pas quelqu'un qui a le réflexe de se tourner vers Dieu puis aller dans la prière quand ça va pas, j'ai bien aimé cette illustration de Tim Keller. Apprendre à prier quand j'ai pas envie de prier, apprendre à prier quand j'ai l'impression que Dieu est irréel, qu'il est loin de moi, que je le sens loin de moi, c'est un peu comme lorsqu'on ouvre les yeux au beau milieu de la nuit. Quand tu ouvres les yeux au beau milieu de la nuit, puis ta chambre est comme black, dark, complètement, noir, charbon. Là. Tu ouvres les yeux, puis tu vois rien du tout. Fait que tu te refermes les yeux. C'est pas ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On rouvre les yeux, puis on attend. Puis on attend. Puis on attend. Puis au fur et à mesure... Hein, notre acuité visuelle va s'adapter, puis on commence à distinguer des formes, puis on a des repères de lumière. Puis apprendre à prier, quand on n'a pas envie de prier, c'est un peu la même chose. Je vais pas aller dans la prière, je vais essayer 3 minutes, puis Dieu me semble aussi loin. Fait que je me referme les yeux, je me retire. Dieu était réel, ça marche pas. Il fait noir ici, j'ai pas de repère. Hein, j'ai besoin de passer du temps encore dans la prière. Puis du temps encore dans la prière. Puis du temps encore dans la prière. Et tranquillement, progressivement, Dieu va redevenir tangible à ma foi, réel à ma foi. progressivement, je vais apprendre à être quelqu'un pour qui la prière est comme un carnet de voyage dans lequel je vais confier tous mes états d'âme, mes impressions, mes moments de joie, mes moments de peine, mais je développe le réflexe d'aller vers Dieu dans la prière, même quand je suis découragé puis j'ai pas envie de prier. Et ça devient un remède. Il y a quelque chose que le psalmiste exprime ici lorsqu'il dit « Mon âme a soif de Dieu, comme une biche qui a soif. » Puis le terme hébraïque qui est là, c'est vraiment soif à mourir. Là, t'es dans un désert, puis t'as soif. C.S. Lewis, qui a écrit les Chroniques de Narnia, qui a écrit Tactique du diable, excellent auteur, mettait le doigt sur quelque chose, je crois, lorsqu'il dit « Le psalmiste ici sait que notre soif la plus profonde et la plus réelle peut seulement être assouvie par Dieu. » La prière dans ce psaume-là, c'est pas fondamentalement « Seigneur, délivre-moi de mes adversaires. » Il y a des psaumes que c'est ça, hein? Il y a des psaumes assez raides, c'est « Casse-leur les dents. » c'est assez clair. Pas ça. C'est vraiment « Il languit après Dieu. » Et c'est comme si le psalmiste sait que notre soif la plus profonde, la plus réelle, c'est d'être en communion avec Dieu. Et donc, lorsqu'on vit des épreuves dans la vie, on vit des joies incroyables, on vit des choses extraordinaires, puis souvent dans les premiers moments de joie, il y a comme une espèce de « je suis rassasié ». Quand tu tombes en amour, quand tu gradues, puis là tu dis « ok, tout l'avenir est devant moi, je vais aller chercher une carrière », quand tu es embauché, puis tu rentres ta première journée au travail, quand tu découvres la joie profonde d'une amitié, il y a comme une joie intense qui est là, puis tu as l'impression que c'est comme « ça te rassasie au complet, là ». J'ai plus soif, tout est là. Ces joies-là, énormes, exaltées, je suis désolé de vous le dire si vous ne le savez pas, mais elles passent toujours. Elles passent toujours. Et C.S. Lewis dit, ces soifs-là que nous avons, qui sont comme comblées par ces moments intenses de joie-là, Dieu nous les a donnés pour nous montrer qu'il y a beaucoup plus dans la vie que juste le quotidien. Et cette aspiration-là, très profonde, n'est remplie seulement qu'en Dieu. Et donc, le psalmiste, tu sais, son plus grand besoin, c'est pas d'être délivré de ses adversaires. C'est de retrouver sa joie en Dieu. C'est de retrouver sa communion en Dieu. Et donc, Dieu te donne un travail, tout va bien, c'est génial. Puis là, après ça, ça commence à être difficile. Puis là, ça devient lourd. Puis là, finalement, il n'y a plus grand joie là-dedans. Mais la première joie que Dieu t'a donnée, lorsque tu as eu cet emploi-là, ce moment d'exaltation-là, c'était pas parce que ça devait être ça tous les jours. C'était pour te montrer qu'il y a quelque chose de plus grand qui transcende ces moments-là. Et c'est de trouver ma joie en Dieu. Pas dans la délivrance des épreuves de la vie, mais dans la personne même de Dieu. Alors apprends à challenger tes pensées. Entends ce qui se passe en toi, prie quand t'as pas envie de prier, apprends à challenger tes propres sentiments, tes propres pensées. Au verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » La prière est cet endroit où j'apprends à entendre ce qui se passe en moi, j'apprends à voir mes états d'âme et j'apprends à me tourner vers Dieu. C'est ça la prière. J'apprends à entendre les doutes, l'incrédulité dans mon cœur, la tristesse, le découragement. Puis j'apprends à dire, OK, est-ce que c'est ça qui va guider ma vie? Ou est-ce que je vais challenger ce qui est en train de se passer? Mes pensées, mes sentiments, pour les ramener vers Dieu. Et dans la mesure où, comme Église, on va apprendre à vivre ça dans la prière, Dieu va nous faire grandir dans la prière à ce moment-là. Parce que la prière va devenir plus qu'un endroit où on va faire notre liste d'intercession pour nos enfants et leur salut. Amen. Pour nos conjoints, pour le travail, pour le day-to-day, pour des gens qui souffrent. Mais plus que ça encore, un endroit où je vais rencontrer Dieu quotidiennement. Dans la mesure où la prière va devenir un endroit où j'ai appris à entendre ce qui se passe en moi, j'ai appris à écouter ce qui se passe en moi. Et j'ai appris à challenger, à prier même quand j'ai pas le goût de prier, puis challenger ça. Enfin, en terminant pour placer mes espoirs en Dieu. C'est vraiment ça que le psalmiste fait tout au long du psaume. Il place ses espoirs dans l'amour inconditionnel de Dieu. Regardez le verset 9. Le jour où l'Éternel m'accordait sa grâce, et le mot grâce qu'il y a ici, c'est cet amour abondant de la part de Dieu. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je trouve tellement que c'est une belle expression. Il est découragé, il est abattu, Dieu est irréel, Dieu est loin de lui, comme dans son expérience, mais il se rappelle du Dieu de sa vie, celui qui est mon rocher. J'ai résolu un jour de fonder ma vie et ma foi sur Jésus-Christ, le rocher de ma foi. Amen. Le Dieu de ma vie. Et il se rappelle de cet amour inconditionnel de la part de Dieu. Au verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Choisis de placer tes espoirs en Dieu, car il est mon salut et mon Dieu. » Quand j'ai lu ce psaume-là il y a 2 semaines, ça faisait longtemps que je l'avais pas lu comme ça, puis j'ai pas pu faire autrement que d'entendre Jean 20, 28, Thomas qui dit « Mon Seigneur est mon Dieu. Mon salut est mon Dieu. » Le psalmiste est convaincu que sa délivrance, son salut, se trouve en Dieu. Maintenant, imaginez si ce psalmiste-là avait connu ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. C'est tout en germe, c'est juste dans les prophéties. Il ne connaît pas l'œuvre de Christ encore. Il veut voir la face de Dieu. Jésus dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et nous connaissons l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Avec Thomas, je peux dire mon Seigneur et mon Dieu. Lorsque je vis des moments de découragement, lorsque je suis abattu. John Piper, dans un message sur le psaume 42, dit ceci, « Je ne peux pas vous dire, il s'adresse à son Église, combien de centaines de fois, au cours des 28 dernières années à l'Église Bethléem, j'ai lutté contre la lourdeur du découragement avec ses paroles. Espère en Dieu, John. Espère en Dieu, tu vas encore le louer. Cette lourdeur va passer, cette saison va passer. Ne sois pas abattu, regarde à Jésus, la lumière va se lever. » Dans ce même message, John Piper dit « Apprends à te prêcher l'Évangile à toi-même. Si le psalmiste avait vécu après la venue de Jésus-Christ, c'est ça qu'il aurait fait. Il se serait prêché à nouveau l'Évangile. » Pour se rappeler que ça fait partie de la condition humaine d'avoir des moments de faiblesse. Ça fait partie de la condition humaine d'être découragé. Les plus grands hommes, les plus grandes femmes de foi ont des moments de découragement. Des fois, des vagues de découragement tellement grandes que certains ont prié de mourir. Dire, Seigneur, je crois en toi, mais viens me chercher, je suis plus capable. Et leur cœur déraisonne comme si Dieu permettait des épreuves qui sont au-delà de nos forces. Mais les plus grands hommes de foi, les plus grandes femmes de foi ont fait des prières comme cela. Ils ont dit, Seigneur, ces épreuves-là sont trop grandes pour moi. C'est au-delà de mes forces. Si le psalmiste avait connu Jésus-Christ, il se serait rappelé le cri de Christ sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et dans un sens, on peut dire que c'est la seule fois dans toute l'histoire de l'humanité où un homme, une femme de Dieu, pouvait dire avec vérité que Dieu l'avait abandonné. Pourquoi? Parce que Christ sur la croix a été fait péché. Ah, c'est vrai que Dieu ne l'avait pas abandonné de manière absolue. Dieu allait le ressusciter d'entre les morts 3 jours plus tard, mais il a été fait péché. Il a été maudit sur le bois afin que nous ne soyons jamais abandonnés. Amen? Afin que nous, lorsqu'on traverse des moments de découragement, d'abattement, on puisse prier. Mon Seigneur et mon Dieu, je sais que tu es là. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous traversez des moments de découragement, je ne sais pas ce que vous vivez. Mais je sais une chose, c'est que Dieu nous appelle comme Église à grandir dans notre vie de prière. Et je sais une chose, c'est que la prière est un endroit où on arrête de dire « Ah oui, tout va bien. Hey, ça va? Oui, ça va. » on est à nu devant Dieu, hein? Et lorsque je vais dans la prière, si mon cœur est à plat, puis si mon âme est abattue, j'ai juste pas le goût de prier, j'ai juste le goût d'aller écouter une série sur Netflix, puis de me baser le cerveau à pas penser à la réalité au lieu d'aller dans la prière. Mais ce que Dieu veut nous enseigner à travers cette série-là, Carnet de voyage, à travers les psaumes, c'est que la prière sert à ça. Quand j'ai pas envie de prier, je veux aller dans la prière pour aller entendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est quoi qui se passe dans mon cœur? C'est quoi qui est là? C'est quoi ce découragement-là? C'est pas toujours le péché, les amis. Peut-être que Dieu est en train de te montrer quelque chose duquel tu dois te repentir, mais c'est pas toujours le péché. On est des êtres humains. On est faibles, on est limités. Les épreuves de la vie, les lourdeurs de la vie sont suffisantes pour qu'on soit abattu, accablé. Et peut-être que j'ai juste besoin d'aller me reposer dans la présence de Dieu. Et Dieu veut nous enseigner ça à travers la prière. Apprendre à aller dans la prière pour écouter ce qui se passe en moi. Aller dans la prière quand j'ai pas envie de prier. Peut-être que ce matin, t'as pas envie de prier, t'as pas envie de chanter des louanges avec nous. Reste en silence, écoute les chants, laisse-toi porter par le peuple de Dieu qui est réuni ensemble pour célébrer l'Éternel. Cette semaine, va dans la prière. Dis, Seigneur, j'ai juste tellement pas le goût d'être ici. Tu vois, mon cœur est lourd. Une fois que tu as bien entendu ce qui se passe en toi, commence à t'exhorter avec la parole de Dieu. Rappelle-toi de l'Évangile de Jésus-Christ, de son amour à la croix pour toi. Rappelle-toi qui l'a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Afin que jamais on ne soit abandonné, nous. Parce que notre sécurité, notre rocher, c'est Jésus-Christ. Place tes espoirs en lui. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, j'aimerais t'amener tes enfants, cette assemblée, cette église, Seigneur. Seigneur, nous avons déterminé de grandir dans la prière, grandir avec toi, Seigneur. Parce que nous avons connu qu'en toi, Jésus est le salut. Lorsqu'on regarde au passé dans notre vie, Seigneur, nous avons connu que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous savons qu'il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre que toi, Seigneur. Mais la réalité, Seigneur, c'est que tu nous connais dans notre faiblesse. On a ces moments glorieux de foi où on serait prêt à déplacer des montagnes, mais on a ces moments comme Élie où on commence à être complètement submergé, Seigneur. Plusieurs d'entre nous ont déjà fait cette prière, comme moi, Seigneur, viens me chercher maintenant, accorde-moi la grâce de mourir maintenant, Seigneur. Et tu veux nous apprendre à prier pour être honnête avec nous-mêmes et être honnête avec toi. Tu veux nous apprendre à prier pour venir vers toi quand tout en nous dit que c'est pas là qu'on veut aller, et qu'on veut juste aller endormir ce mal, cette souffrance qu'il y a en nous, à travers des loisirs, à travers le travail, à travers des activités, plutôt que de s'arrêter puis venir vers toi dans la prière, Seigneur. Tu veux nous enseigner, Seigneur, à s'exhorter nous-mêmes, à exhorter nos cœurs abattus avec cet espoir qu'il y a en toi, ô Dieu, en toi, Seigneur Jésus. Merci, Christ, d'avoir donné ta vie pour nous, d'avoir porté nos péchés à la croix, afin que plus jamais je n'ai à douter de ton amour pour moi, ô Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.